20h, 21h.
Jean-Alphonse Richard sur RTL.
L'heure du crime.
Bonsoir, c'est Jean-Alphonse Richard, très heureux d'être avec vous ce soir dans l'heure du crime, où nous poursuivons notre série spéciale consacrée cette semaine au grand rapt, ces enlèvements spectaculaires qui ont marqué l'histoire du crime, des histoires célèbres dont s'est souvent emparé le cinéma, tant ces scénarios font appel à une imagination sans limite, tant ces enquêtes sont difficiles, périlleuses et jusqu'à la dernière seconde empreintes d'une immense tension. Ce soir, dans l'heure du crime, épisode numéro 2 des grands rapts, avec sûrement l'un des plus célèbres, l'enlèvement du baron Édouard Jean Empain, un grand patron français, héritier d'une prestigieuse lignée industrielle, playboy discret, et même secret, qui en ce mois de janvier 1978 va être enlevé par des hommes armés, puis retenu en otage pendant 63 jours. Pas un record, mais l'un des rapts crapuleux les plus longs. L'affaire Empain, c'est bien évidemment une histoire qui a marqué les imaginations. La scène où cet homme de 41 ans a le petit doigt sectionné en quelques secondes par ses ravisseurs, petit doigt adressé à la famille pour signifier qu'on ne plaisante pas, qu'il n'y a pas d'autre choix que payer, sinon l'otage sera exécuté. Longtemps, le scénario précis de ce rapt très médiatique n'a pas été connu avec précision. Au fil du temps, grâce aux confidences policières et puis celles du baron Empain lui-même et celles de ses geôliers, on peut ce soir reconstituer les 63 jours de son enlèvement, l'enquête, la détention jusqu'au dénouement qui sera finalement loin, très loin d'être une pleine libération pour le grand capitaine d'industrie. Il vivra jusqu'à la fin de ses jours. Il s'est éteint en juin 2018 à l'âge de 80 ans. Il vivra en par les fantômes de cette histoire lointaine mais jamais éteinte. Pour mieux comprendre les rouages de cette histoire, je reçois ce soir l'avocat du baron Empain, maître Jean-Yves Dupeux, qui nous fait l'honneur d'être dans le studio de l'heure du crime. Grand plaisir de vous recevoir, maître, ce soir dans l'heure du crime. En quelques mots, maître Dupeux, pourquoi l'histoire du baron Empain, pourquoi ce rapt est-il encore aujourd'hui emblématique ?
Oh, pour une raison qui est assez claire, c'est qu'il s'agit d'un personnage qui était hors du commun. C'était, comme vous l'avez dit, un très grand industriel et en même temps un homme qui avait une personnalité très discrète, réservée. C'était un homme qui n'était pas du tout un mondain, contrairement à ce qu'il était obligé quotidiennement de faire. Et puis ce rapt a été terrible parce que il a été d'une violence incroyable. Il disait, et je crois qu'il avait raison, que c'était un gang organisé de manière quasi militaire qu'il avait ravi. Et puis tout de suite, cet acte de barbarie qui a consisté à vif à lui couper la dernière phalange du petit de l'annulaire gauche, si je me souviens bien. Donc c'est pour ça que j'ai été son avocat, j'étais beaucoup plus jeune que lui, mais moi je ne pourrais jamais oublier cette affaire, ce qu'il a été, ce qu'a été la suite de son enlèvement. Mais tout ça, on en parlera tout à l'heure.
On va en parler bien sûr, parce qu'on va vous retrouver, maître Dupeux, à la fin de l'émission. Et puis on va raconter tout d'abord ce rapt spectaculaire, celui donc d'un héritier célèbre, l'enfer Empain. C'est tout de suite sur RTL. Ce lundi 23 janvier 1978, le baron Édouard Jean Empain quitte comme à son habitude à 10h20 précise son vaste appartement du numéro 33 de l'avenue Foch. Il vit ici avec son épouse, la baronne Sylvana, et leurs trois enfants, Patricia, Christine et Jean-François. Le baron sort de l'immeuble moderne de l'avenue Foch. Il s'engouffre aussitôt à l'arrière de la Peugeot 604, puis déplie les journaux du jour. Son fidèle chauffeur, Jean-Denis, peut démarrer. Édouard Jean Empain se rend à son bureau de président-directeur général au numéro 42 de la rue d'Anjou. C'est d'ici qu'il dirige Empain Schneider, un groupe familial puissant dont il a le contrôle depuis maintenant 9 ans. L'industriel, 41 ans, est l'un des plus puissants hommes d'affaires européens. Il est redouté en affaires et écouté en politique. C'est aussi l'un des financiers les plus riches du moment, même si ce playboy cultive généralement une extrême discrétion. Son visage est quasiment inconnu du grand public. La Peugeot 604 descend à faible allure la contre-allée de l'avenue Foch. Jean-Denis, le chauffeur, ne peut pas aller très vite. Devant lui, un homme juché sur un cyclomoteur fait des embardées, zigzague en occupant toute la chaussée, puis finit par s'écrouler. La voiture du PDG pile brutalement. Aussitôt, trois hommes masqués et armés de pistolets mitrailleurs bondissent d'une camionnette bleue, une estafette Renault volée à une entreprise de plomberie. L'un des hommes cagoulés agrippe le chauffeur, lui donne des coups, le jette à terre et le pousse dans la camionnette. L'employé de maison du baron sera abandonné sur le trottoir, pas très loin, place Dauphine. Dans sa voiture, Édouard Jean Empain n'a pas eu le temps de faire le moindre geste. L'un des agresseurs lui a aussitôt bandé les yeux et la bouche avec du sparadrap. On lui a glissé une cagoule sur la tête. Ses poignets et ses chevilles ont été menottés en un tour de clé. Trois hommes à bord de la 604. L'un d'eux empoigne brutalement le baron par le cou, le pousse entre les sièges sur le plancher de la voiture. Empain entend alors cet avertissement. « Si tu ne fais pas tout ce qu'on te dit, on te bute. » Commence alors pour ce précieux otage une vie aux yeux bandés qui va durer 63 jours. Le premier arrêt est rapide. Empain comprend qu'il est dans un parking souterrain, celui en fait de la porte Champéry. On change de voiture, un break cette fois, on le pousse dans le coffre. La voiture roule sur le périphérique parisien, s'arrête à nouveau dans un parking. « On va te faire dormir », dit un des hommes à l'industriel. Une piqûre dans le bras, le baron est groggy, somnole mais ne dort pas. Il entend les grésillements de la radio des ravisseurs, un scanner branché sur la fréquence des policiers, où effectivement, il entend son nom. La traque est lancée. Les barrages de police se mettent en place dans et autour Paris. En début d'après-midi, la nouvelle du rapt est confirmée.
RTL 15h37, Paris, le baron Édouard Empain a été enlevé avenue Foch devant son domicile à 11h ce matin.
Les journalistes se massent alors devant le 33 avenue Foch, premier récit et premières interrogations.
On a vu au moins trois hommes sur le trottoir de l'avenue Foch, ceux de la 604 bien sûr, et le cyclomotoriste qui a menacé un des rares témoins de ce rapt à l'italienne, car l'enlèvement du baron Empain est passé presque inaperçu. Et c'est ce témoin, un ouvrier électricien, qui a donné l'alerte dans un café voisin.
Un rapt à l'italienne. Le terme est dans toutes les bouches et dans tous les journaux. Terme qui renvoie à une industrie du rapt qui prospère en Italie et qui est à la mode. On ne compte plus les enlèvements de patrons célèbres ou non, mais dont les familles sont suffisamment riches pour verser des rançons. Tout le monde a en mémoire l'enlèvement en avril 1977, quelques mois donc avant Empain, du directeur général de Fiat France, éminence grise du groupe automobile Luchino Revelli Beaumont, 89 jours de captivité, une rançon et, cas de figure prémonitoire, un grand patron brisé. Les policiers du 36 quai des Orfèvres, selon le terme consacré, n'excluent aucune piste. Celle d'une vengeance professionnelle pour faire disparaître un patron puissant et ambitieux. Celle de la vie privée de l'intéressé sur laquelle les enquêteurs vont beaucoup se pencher. Ils découvriront au fil de leurs investigations l'autre face d'Édouard Jean Empain. Celle d'un homme qui aurait des dettes de jeu, une garçonnière, des maîtresses. Autant de mystères qui auraient pu provoquer cet enlèvement, une espèce de règlement de compte. En quelque sorte, la piste politique, en ces années où l'extrême gauche terroriste bouillonne, alors que le patron des patrons allemands, Hans-Martin Schleyer, a été enlevé et assassiné par la fraction armée rouge, cette piste n'est pas écartée. Personne ne sait que le baron Empain est, après quelques heures passées dans le coffre d'une voiture, arrivé à destination, son premier lieu de détention. Empain n'a évidemment aucune idée de l'endroit dans lequel il se trouve. Il est comme assommé, courbaturé, désorienté. Il sait qu'une autre voiture a ouvert la route pour arriver à bon port et éviter toute mauvaise surprise. Il a entendu les conversations des ravisseurs. Il sait aussi qu'ils sont entrés dans une forêt. Il a respiré l'odeur des bois, une maison, quelques marches à descendre, une cave. On le fait s'allonger, les yeux bandés, menottés, une le laisse autour du cou, sur un matelas pneumatique, sous une toile de tente humide. Le baron Empain n'a pas le temps de s'assoupir. Un homme arrive, éclaire de sa lampe torche une feuille manuscrite qu'il tend au PDG du groupe Empain-Schneider pour qu'il la lise. Tout ce qu'il voulait savoir, ou presque, est indiqué sur ce morceau de papier. Empain ne sera libéré que contre une rançon de 90 millions de francs payable en francs français, en Deutsche Mark ou en francs suisses.
On a vu au moins trois.
Il s'agit donc bien d'un rapt crapuleux monté par des voyous. Le baron reprend un peu d'espoir. Il imagine que la rançon, même si elle est énorme, pourra être versée et qu'il retrouvera très vite la liberté. Mais cette lueur d'optimisme s'évanouit quand il lit et relit la dernière phrase « Nous allons te couper un doigt pour l'envoyer au tien comme preuve que nous te détenons. » Le baron Empain va dans quelques minutes être mutilé. L'enquête des Lautres va changer du tour au tout. Quelques heures après l'enlèvement, le baron Empain, les yeux bandés, est assis autour d'une table dans ce qui est sans doute la cave d'un pavillon isolé. Un ravisseur a empoigné sa main gauche, l'a posée et a écarté le petit doigt, l'auriculaire des autres doigts. Empain a été averti qu'on allait lui sectionner cette phalange. On porte à sa bouche un mélange anesthésiant pour qu'il ne souffre pas. En 2 minutes, une lame tranche le petit doigt. Empain ne ressent pas la douleur. On lui panse la blessure et on le pousse, entravé et menotté, sous la tente. Le baron Empain s'écroule, dort de longues heures, croit avoir rêvé et se réveiller dans son lit avenue Foch. Mais le cauchemar est bien réel. Les yeux ouverts, il aperçoit une bouteille d'alcool à 90 degrés. Un geôlier lui demande de la verser sur la plaie. Il portera désormais à jamais cette blessure, souvenir indélébile de sa première soirée de détention. Il ne s'amusera que bien des années plus tard de cette mutilation, lorsque nous le rencontrerons dans sa maison du Vexin, où il s'était retiré.
Souvent, les gens regardent cette main gauche pour s'assurer que c'est bien moi. Quand ils voient qu'il n'y a pas de doigt, ils disent « On m'attend, oui, je vois que c'est bien lui. C'est celui qui a été enlevé. Oui. » Tout le monde sait que j'ai le doigt coupé. C'est pas pour qu'on me reconnaisse dans la rue que je suis comme ça. Mais enfin bon, j'ai un doigt en moins, c'est tout. Pas grave. Finalement, ça sert pas à grand-chose, ce petit doigt.
Sous la menace, le baron Empain a donc écrit une première lettre dans laquelle il donne les consignes pour payer la rançon de 90 millions de francs et précise que si l'argent n'est pas versé, on le retrouvera mort. La lettre est alors accompagnée du bout de doigt sanguinolent de l'otage, le tout déposé dans un lieu communiqué à la famille.
C'est difficile à raconter. Dans la case métallique d'une armoire de consignes automatiques, dans une gare de Paris et dans un paquet enroulé dans du coton, dans de la ouate, le bout d'un doigt, l'extrémité d'un auriculaire. C'est horrible et c'est ce que les ravisseurs d'Edouard Jean Empain appellent une preuve qui ne signifierait pas grand-chose, sinon peut-être la détermination des ravisseurs, s'il n'y avait eu un autre envoi. Une lettre du baron Empain, d'une écriture donc facilement reconnaissable pour ses proches, et aussi ses papiers d'identité, dans une autre case d'armoire de consignes, dans une autre gare parisienne, la gare de Lyon cette fois. On peut imaginer que c'est pour forcer la décision, pour accélérer les tractations, pour faire peut-être accepter l'énormité de la rançon, que les ravisseurs ont fait preuve d'une telle cruauté. Nous vivons un singulier moment où l'on jongle avec une désinvolture sauvage, aussi bien avec les milliards, dans un monde où la vie pour beaucoup est difficile, et avec la vie qui, pour certains, ne pèse plus lourd.
Avec ce macabre envoi, l'affaire prend une toute autre tournure. Le directeur de la brigade criminelle au Quai des Orfèvres, le commissaire Pierre Ottavioli, redoute que l'affaire ne se termine de façon dramatique. D'expérience, il sait que des malfaiteurs aussi déterminés et organisés, apparemment ils ont tout prévu, ne libéreront pas leur otage, même si les millions sont versés. Il faut donc gagner du temps, avoir un indice, une information pour s'approcher du groupe des ravisseurs. Mission d'autant plus compliquée qu'il y a des interlocuteurs dans tous les sens. La direction d'Empain-Schneider négocie discrètement dans son coin avec les malfrats. L'objectif est de faire baisser la demande de rançon au fil des jours et des semaines. La somme est ramenée à 30 millions de francs. La direction du groupe industriel, tout comme l'épouse de l'otage, la baronne Sylvana, sont prêts à payer. Mais la police est contre et propose une remise de rançon factice. Des billets dans des valises et l'interpellation du premier suspect venu. La date du rendez-vous a été fixée par les ravisseurs au 22 février dans la station de sport d'hiver de Megève, où le baron aime venir skier. La zone va être discrètement bouclée par des policiers déguisés en touristes et en moniteurs de ski. L'inspecteur Jean Mazieri, qui pratique les arts martiaux, se fera passer pour un collaborateur du PDG, un certain monsieur Mazot. À l'hôtel Le Chalet du Mont d'Arbois, il est prévu qu'il reçoive un coup de fil d'un certain Félix Le Chat. Il demandera à parler à Jacques Dupont. Les heures vont défiler, mais le coup de fil tant espéré ne viendra pas. Les ravisseurs se sont à fait douter que quelque chose ne tournait pas rond à Megève. Trop de skieurs isolés et de simples promeneurs dans les rues enneigées de la station de ski. Le baron Empain, qui croupit dans sa cave dans des conditions épouvantables, est le premier informé de cette remise de rançon ratée. Un de ses geôliers lui dit « Ces cons de flics, ils ont cru qu'on allait plonger ». L'équipe de malfaiteurs est furieuse. Entre eux, ils croyaient avoir touché au but. Leurs interlocuteurs au sein du groupe industriel leur avaient assuré que la police serait tenue loin de ces tractations et de ce rendez-vous. Les ravisseurs sont furieux et exaspérés. Ils commencent à en avoir marre de cette vie clandestine, marre aussi de cet otage qui ne leur rapporte rien, sinon du temps perdu et le fait d'avoir toutes les polices de France et de Navarre à leur trousse. Le baron Empain va continuer, comme le lui demandent ses gardiens, à écrire des lettres désespérées où il insulte ses collaborateurs. Il fait sciemment des fautes d'orthographe, lui qui n'en commet quasiment jamais, afin d'attirer l'attention de ses collaborateurs et de sa famille pour montrer qu'il n'est pas dupe de la situation et qu'on le force à écrire. À la réception de ses courriers, les proches d'Edouard Jean Empain auront une toute autre réaction. Ils penseront que le PDG est tout simplement en train de devenir fou, qu'il est probablement traumatisé par sa mutilation, ce petit doigt coupé, et qu'à ce rythme-là, il ne tiendra pas longtemps le choc. La détention du baron Édouard Jean Empain va alors entrer dans sa phase la plus sombre et sa vie ne tenir qu'à un fil. Un mois déjà que le baron Empain a été enlevé devant son domicile parisien. Le contact avec les ravisseurs n'a jamais été rompu et les policiers de la CRIM, la brigade criminelle du commissaire Pierre Ottavioli, se sont peu à peu rapprochés d'eux. Mais désormais, ces geôliers se taisent. La remise de rançon ratée à Megève sous haute surveillance policière les a rendus méfiants. Pour davantage de sécurité, parce que la cave qu'ils occupent avec le baron est bien trop humide, sale et inconfortable, tout le monde change de planque. C'est la première fois, depuis le début de sa détention, que Édouard Jean Empain se retrouve debout et marche. Quelques pas, cagoulés, menottés, il titube et glisse en posant ses pas dans la neige fraîche, pour aller ensuite se recroqueviller dans le coffre d'une voiture. Une demi-heure plus tard, il a le sentiment d'être arrivé dans une cour de ferme. En quelques secondes, il va connaître pour la première fois la terreur. On le pousse dans une caisse en bois dont on rabat le couvercle. Des années plus tard, il nous racontera son effroi.
Pour passer du premier lieu de détention au deuxième, on m'a mis dans une caisse. Une caisse qu'on a cloutée. Je ne sais pas si vous vous rendez bien compte c'est comment on peut se sentir quand on vous met dans une caisse cloutée et que cette caisse est soulevée par une grue. Est-ce qu'on va la jeter dans la Seine? Est-ce qu'on va la jeter dans une décharge publique? Quelques secondes, quelques minutes. C'est très court, mais c'est terrible.
La grue dépose finalement l'otage dans une espèce de grenier à foin. Le baron Empain est toujours menotté. Il a toujours autour du cou un collier de chien relié à une chaîne métallique. Mais le lieu est plus accueillant que la précédente cave. Il fait chaud, la nourriture est meilleure, et il a droit aux journaux qu'on lui apporte. Il y a un mois, il était encore l'un des hommes les plus puissants de l'industrie européenne, un grand patron respecté qui faisait la pluie et le beau temps à la tête de son empire, Empain-Schneider. Mais aujourd'hui, en lisant la presse, il constate avec effarement que son cas ne fait plus que quelques lignes en bas de page, quelques entrefilés. Empain aura alors le sentiment qu'on ne le recherche plus et qu'il est condamné soit à croupir encore pendant des mois dans ce grenier, soit plus directement à être exécuté. Malgré les apparences, les enquêteurs travaillent d'arrache-pied sur le dossier. 7 semaines après leur rapt, les ravisseurs enfin renouent le contact avec l'entourage du baron Empain. C'est l'un de ses proches collaborateurs, René Engen. Il a pris les rênes du groupe en l'absence du patron, qui va jouer les intermédiaires. Une fois encore, une lettre du baron, écrite sous la dictée, fixe les consignes pour la remise de la rançon avec cet avertissement. Cette fois, c'est la vie ou la mort si vous appelez la police. Engen avertit toutefois la brigade criminelle. L'opération policière qui suit est spectaculaire. Un rendez-vous téléphonique est fixé le jeudi 23 mars à l'intérieur du restaurant Le Fouquet's sur les Champs-Élysées. Un collaborateur du groupe Empain Schneider, il s'agit en fait à nouveau de l'inspecteur Mazzieri, doit recevoir un coup de fil d'une certaine Charlotte Corday. La feuille de route est donnée pour la remise de rançon et c'est un authentique jeu de piste. Le faux collaborateur d'Empain, mais vrai policier, se rend porte d'Auteuil. Nouveau coup de fil, récupère un message au fond d'une poubelle, file en banlieue, à Antony, où il doit prendre le volant d'une autre voiture qui l'attend dans un parking. Dans la boîte à gants, un autre lieu de rendez-vous, un café de la porte d'Auteuil, puis l'hôtel Hilton à Orly. Après 6 heures de route, les ravisseurs font savoir que la remise de rançon aura lieu le lendemain. Le vendredi 24 mars, en fin d'après-midi, le jeu de piste recommence. Pour s'achever une bonne heure plus tard sur l'autoroute du Sud, à hauteur de la borne d'appel d'urgence B163. L'inspecteur Mazzieri immobilise donc son véhicule contenant la valise remplie de faux billets et sort de la voiture. À ce moment-là, 2 hommes armés, cachés en contrebas de la glissière, bondissent. L'inspecteur ne peut rien faire. La voiture contenant la rançon démarre en trombe, s'arrête 200 mètres plus loin à hauteur d'un mur anti-bruit où une trappe a été aménagée. Mais les gangsters n'iront pas plus loin. Une équipe de policiers les a suivis et tente de les courser. Échange de coups de feu sur l'autoroute. Un malfaiteur, Alain Duchâteau, un pro du braquage de banque, est tué. Le deuxième, Alain Caillol, lui aussi connu de la justice, est gravement blessé. Aussitôt transporté à l'Hôtel Dieu. Dans la 3e planque du baron Empain, il a de nouveau changé de lieu de détention pour se retrouver dans un pavillon de banlieue. C'est la consternation. Alors que la veille, les ravisseurs lui avaient dit que la rançon ramenée à 40 millions était en train d'être versée, ce matin-là, un de ses gardiens lui balance le journal du jour. Un gros titre barre la une de François. Un des ravisseurs du baron Empain tué sur l'autoroute à la hauteur de l'Ailé-Rose. Empain est désemparé. Il sait à ce moment-là que la rançon ne sera jamais payée, que sa vie ne vaut plus rien et que l'histoire touche sans doute à sa fin. Un geôlier vient à sa rencontre, il lui dit « Tu as lu ce qui s'est passé, tu as compris où on en est ? Il n'y a plus que 2 solutions. On te tue où on te libère. » L'homme ajoute que toute l'équipe de ravisseurs va se réunir, discuter, puis votera ensuite la vie ou la mort pour le baron. Même si au quai des Orfèvres, le commissaire Ottavioli ignore tout de ce vote lugubre, il sait que Édouard Jean Empain est en grand danger. Peut-être d'ailleurs est-il déjà mort. La famille, la baronne Sylvana, les dirigeants d'Empain Schneider doivent se préparer à une issue fatale. Les ravisseurs n'ont désormais plus rien à perdre. Le patron de la crime n'a plus qu'une carte dans son jeu. Il va donc abattre son Vatou, seul moyen pour que l'otage ne soit pas exécuté. Pour le patron de la brigade criminelle, Pierre Ottavioli, le seul moyen d'obtenir la libération d'Empain, alors que la partie est perdue pour les ravisseurs, le seul moyen, c'est de faire pression sur l'un des hommes du gang arrêté 48 heures auparavant et de le faire parler. Alain Caillol a été blessé lors de la remise de rançon qui a fini en fusillade sur l'autoroute du Sud. Mais les médecins l'ont rapidement remis sur pied. Le commissaire Ottavioli persuade Caillol que la partie est perdue aujourd'hui pour tout le monde. La mort du baron Empain ne ferait qu'aggraver l'affaire et faire des ravisseurs des meurtriers qui seraient toute leur vie activement recherchés. Caillol va alors demander aux policiers la permission de se servir de son téléphone.
Le coup de fil de Caillol est un coup de fil qu'il m'a demandé à passer alors qu'il se trouvait dans mon bureau et qu'il m'a dit, écoutez, j'ai moi parfaitement compris la situation. Je sais parfaitement que mes complices ne pourront jamais avoir un centime de rançon, que tout cela va se poursuivre par des carnages. Si vous permettez, je crois pouvoir obtenir la libération du baron si je peux téléphoner sans que vous voyez le numéro de téléphone que je vais faire. J'ai pris contact immédiatement avec le parquet et le juge d'instruction, mais il a été convenu très rapidement que nous ne pouvions qu'accéder à cette demande qui ne pouvait porter préjudice en rien à la suite de l'enquête, puisqu'aussi bien les complices étaient largement prévenus que Caillol était arrêté. Et c'est ce qu'il a fait.
Qu'a-t-il dit exactement ?
Il a dit à peu près ceci, ici Alain, c'est foutu, vous n'aurez pas un centime de rançon, vous allez aller de carnage en carnage, libérez le baron.
Ce coup de fil pèse lourd dans la décision qui va suivre. Quelques heures plus tard, les ravisseurs préviennent Édouard-Jean Empain de leur décision. Ceux qui n'ont eu que des rôles de guetteurs ou de coursiers ont voté la mort. Mais les geôliers qui ont partagé les jours et les nuits de l'otage ne se sont pas résolus à l'exécuter. L'un d'eux lui confie « De l'autre côté de la tente, c'est facile de tuer quelqu'un que l'on ne connaît pas. » Mais on ne tue pas quelqu'un avec qui on a vécu pendant 2 mois. Le baron Empain accepte la toute dernière requête des ravisseurs. Il signe 3 reconnaissances de dette, 45 millions de francs chacune, pour les ravisseurs. Ils lui laisseront du temps pour payer, mais s'il ne tient pas sa parole, ils tueront au hasard une personne dans la rue et laisseront sur elle la reconnaissance de dette. Ce marché sordide n'aura pas de suite. Le dimanche 25 mars 1978, après 63 jours de détention, le baron Empain est libéré. Il est habillé d'un survêtement. Il porte une cagoule. 2 de ses gardiens le déposent dans un coin désert de banlieue. On lui glisse dans la main un billet de 10 francs. Quand la voiture s'éloigne, Édouard-Jean Empain ôte sa cagoule et commence à marcher dans ce quartier inconnu, jusqu'à ce qu'il aperçoive une bouche de métro sur laquelle est marquée « Porte d'Ivry ». Barbu, hirsute et épuisé, le baron descend à la station Opéra, téléphone à sa femme. C'est un homme qui décroche. « Je voudrais parler à Sylvana, s'il vous plaît ». « De la part de qui ?» interroge l'homme qui est un policier. « De la part de son mari. » Toute sa vie, le baron Empain demeurera marqué par cette épreuve. Voilà ce qu'il nous disait en 2008.
Pour moi, c'était 63 fois 24 heures, parce qu'il n'y avait pas de nuit, il n'y avait pas de jour. Je n'ai pas vu la lumière du jour pendant toute cette période. Mes ravisseurs ont tout fait pour me faire perdre la notion du temps. Je n'avais pas de repère du tout. J'essayais toujours de gagner un jour de plus, parce que tant que je gagnais un jour de plus, ben, y avait un espoir en plus. J'étais très conscient que c'était une situation dont j'avais que très peu de chance de sortir.
Est-ce que c'est la première fois que vous connaissez la peur ?
Oui, pas peur de la mort, peur de souffrir. J'avais fait promettre à mes ravisseurs que s'ils devaient me supprimer, ils le feraient proprement, sans me découper en morceaux. Et pourtant, ils avaient quand même commencé à me découper en morceaux. Donc, c'était la vie ou la mort.
En cette fin mars 1978, les réjouissances de la libération ne durent pas. Le baron Empain s'aperçoit qu'en 2 mois de détention, sa vie a totalement basculé. Il ne sera plus jamais le même aux yeux de sa famille et de ses collaborateurs. Il a le sentiment d'avoir été sali, attribue à la police le fait d'avoir fouillé dans les tiroirs, comme il dit, avoir colporté sur son compte rumeurs et suppositions, des dettes de jeu, des aventures extra-conjugales, une double vie privée dissolue. Empain divorcera de son épouse et abandonnera la tête du groupe Empain-Schneider. Je ne peux plus faire confiance à personne parce que je n'ai jamais réussi à savoir ce qui s'était passé pendant ma séquestration. Il ajoutera que seul son labrador, Love, était heureux de le revoir. 4 ans après leur rapt se tient le procès de l'affaire Empain. Le baron découvre pour la première fois le visage et la silhouette de ses ravisseurs, 6 hommes et 2 femmes. Il ne les accable pas. Les condamnations s'échelonneront entre 2 ans et 21 ans de prison. Des ravisseurs qui expliqueront avoir choisi le baron Empain un peu au hasard. Ils hésitaient entre Liliane Bettencourt, Claude François ou Marcel Dassault. Avant de lire un article du Canard enchaîné sur le grand patron Édouard Jean Empain, comme quoi avoir son nom dans le journal peut parfois changer toute une vie. Et l'heure du crime où l'on revient donc ce soir sur le rap du baron Empain en 1978 avec notre invité maître Jean-Yves Dupeux, avocat et ancien défenseur du baron Empain. Maître Dupeux, ce rap, affaire emblématique, vous l'avez rappelé en préambule de cette émission, vous avez défendu le baron Empain au procès de ses ravisseurs avec votre confrère, je crois que c'était maître Prévost, hein, c'est
Bernard
bien ça
Prévost, oui.
Bernard Prévost. On était là 4 ans après le rap. Quel était alors, maître, le sentiment de Édouard Jean Empain lors de ses audiences?
Il était extrêmement calme, extrêmement serein. Il avait c'est un homme qui ne connaissait pas la haine. Et pourtant, il aurait été légitime à avoir une certaine haine à l'égard de ses ravisseurs. Je le vois encore, il les regardait. Eux, quelquefois, fuyaient son regard. On sentait qu'il leur en avait beaucoup imposé. L'un d'entre eux, quand il est sorti de prison, a dit « avec Empain, c'était le syndrome de Stockholm à l'envers ».
Voilà.
Hein? Ce procès, je crois, lui a beaucoup apporté, parce que il a beaucoup écouté, il y avait beaucoup de témoins, il y avait beaucoup d'experts, et puis il a fait une intervention le dernier jour des débats, avant le réquisitoire et les plaidoiries. Il a fait une intervention qui a duré, je crois, plus de 2 heures, où il a été un personnage exceptionnel, qu'on a retrouvé dans l'émotion, dans l'authenticité. Il a raconté tout ce qu'il avait vécu, avec sans dramatiser, ce qui était quand même un événement tout à fait dramatique. Mais il l'a raconté de manière simple, presque crue. Et je pense que ce jour-là, il a fait sur lui-même un travail reconstructif.
Un travail, comme diraient les psychanalystes,
oui,
hein, presque.
Oui.
Je voudrais qu'on revienne, vous avez évoqué le syndrome de Stockholm, en 2 mots, c'est ce sentiment finalement d'affection, dans tous les cas, de compassion qu'a la victime pour son ravisseur. Là, c'était un petit peu à l'envers, mais Empain aussi avec ce sentiment.
Il l'avait eu lorsqu'il était séquestré. Au tout début, il s'en explique d'ailleurs, au tout début, il les déteste. Enfin, ce sont ceux qui l'ont enlevé. Sont des monstres. Et puis, peu à peu, c'est d'ailleurs à ce moment-là qu'on a parlé du syndrome de Stockholm. C'était un mot, une expression qu'on ne connaissait pas. Peu à peu, les méchants sont à l'extérieur parce que ce sont ceux qui veulent pas payer la rançon, qui ne répondent pas aux ravisseurs comme ils devraient le faire. Et lui ressent que les ravisseurs sont ceux qui le protègent, qui le maintiennent en vie, dans des conditions certes extrêmement inconfortables. Et c'est quelque chose qui, paraît-il, se retrouve dans beaucoup de rapts.
Oui, tout à fait, où les gens, effectivement, sont prisonniers de ce système et remercient finalement leur geôlier. C'est assez classique en matière de rapts. Maître, vous l'avez très très bien connu, le baron Empain. Est-ce que réellement, lors de cette détention, sa vie a été en danger? Est-ce qu'on a voulu le tuer à un moment donné?
Ça aurait été possible. Ça aurait été possible. Vous savez, lorsque la remise de rançon, déjà à Megève, a échoué, Je me souviens, moi j'étais à l'époque dans un cabinet d'avocats qui s'occupait du baron Empain et de la famille. C'était une crainte terrible qu'on avait, mais de ce qu'il en a dit lui, il a eu aussi cette crainte. Mmh. Comme il a eu aussi la peur au moment où il a appris la fusillade de l'autoroute du Sud, hein, dans les derniers jours. Là, il s'est vu vraiment mort et il vous le disait. J'avais même demandé à mes ravisseurs de me liquider proprement,
c'est
dit-il.
Ça, de ne pas me couper en
de
morceaux.
De ne pas me couper en morceaux. Hein. Et oui, incontestablement, il aurait pu. Enfin, les ravisseurs étaient quand même des gens sans scrupules, avec peu d'humanité pour beaucoup. Et ils auraient très bien pu le liquider, comme ça avait été le cas pour plusieurs. Vous rappeliez Hans-Martin Schleyer, quelques semaines avant, oui, oui. En Allemagne.
Retrouvé mort à Mulhouse, le patron des patrons allemands, oui.
Absolument.
C'était un rap politique, là, en l'occurrence.
Oui, c'était un rap politique, mais il y avait eu, alors je ne sais plus très bien, je ne situe plus très bien dans le temps, mais il y a eu l'affaire Aldo Moro aussi, Moro qui a été retrouvé mort, là aussi rap politique. Non, ce qu'il y a eu, moi, ce qui m'a beaucoup frappé dans cette affaire, c'est que il est grand patron d'industrie, et puis le 23 janvier, il est enlevé, il disparaît, et la police n'a aucun indice. Le seul indice qu'elle ait, c'est le baron Empain. Mmh. Et donc, on va tourner autour de ce qu'il est, de sa vie privée, de ses passions, de toutes ses faiblesses, de tous ses défauts, et on va voir que c'est un homme qui est addict au jeu, il faut bien le dire, qui a
au poker,
mais surtout au casino, et c'est là qu'il a l'été précédent contracté des dettes de jeu qui sont des dettes très importantes. On sait qu'il a une vie sentimentale qui est assez chargée,
il est très bel homme,
animée,
et aux femmes.
Il est très très bel homme. Il a des maîtresses, même s'il a beaucoup d'affection et d'amour pour la baronne Sylvana, hein, qui l'aime beaucoup, et j'en ai été personnellement le témoin, même au-delà après leur divorce. Mais on va polariser l'attention de la police, mais à cause de la porosité également de la presse. Et là, on va comprendre ce que c'est que l'atteinte à la vie privée.
Évidemment, il va y avoir un tout autre portrait du baron Empain qui va se dessiner. À ce moment-là, j'ai envie de dire que finalement, Empain, il a eu trois vies. Il y a celle d'avant, il y a celle du rapt, et puis il y a peut-être la plus importante, c'est celle d'après. Parce que là, il a tout perdu quand il est libéré, Empain.
Oui, et ça, c'est... j'allais dire, c'est ce qu'il y a de plus, enfin, ce qui m'a le plus frappé, presque le plus passionné dans cette affaire-là, c'est que il est tout ce qui s'est dit sur lui, tout ce qui s'est su sur lui, fait que lorsqu'il sort, il ne peut plus du tout avoir la même vie, ni la même vie familiale, ni la même vie professionnelle. Et il tente bien un moment de reprendre les rênes du groupe Empain-Schneider, mais c'est fini. Parce que quand on est à la tête de 140 000 salariés, qui sont pour beaucoup au SMIC, c'est difficile, il faut bien reconnaître, c'est difficile de dire qu'on a perdu 10 millions de francs au jeu, au casino du Palm Beach l'été précédent. Donc il est, allez, employons un mot, il est cramé.
Il est cramé, démonétisé,
on
pourrait dire.
Oui, il ne peut plus avoir cette activité-là. Et puis... il est son couple à ce moment-là
explose,
chavire. Ses enfants, surtout sa fille aînée d'ailleurs qui habite aux États-Unis à ce moment-là, ne se détachent pas de lui, mais il n'a plus ni le ressort ni, je dirais, le goût de reprendre la vie qu'il avait auparavant. Et il y a une forme à la fois de destruction de l'homme, mais en même temps de reconstruction. Ouado, puisque c'est comme ça qu'on l'appelait.
C'était son surnom.
Oui, c'était son surnom.
Ouado.
Et tous ses amis l'appelaient Ouado, et j'ai partagé ce privilège un temps. Mais Ouado était un homme qui n'était pas très à l'aise dans les salons ou dans les conseils d'administration. C'était un homme qui aimait la chasse, qui aimait la nature, qui avait été champion de Baltrape. Au fond, ce changement de vie, d'une certaine manière, lui a convenu.
Alors, tout perdre et puis se reconstruire à l'issue d'un rapt, c'est une constante hein, qu'on a observée en préparant cette émission et toutes les autres qu'on fait cette semaine. Il y a toujours des gens qui perdent tout, y compris les victimes perdent tout à l'issue d'un rapt. C'est vraiment quelque chose qui revient en permanence. On ne peut pas parler du baron en pain sans ne pas évoquer son petit doigt coupé.
Oui.
Ça l'excédait assez qu'on revienne sur cette question. Qu'est-ce qu'il vous disait, vous ?
Ben, on n'en parlait pas beaucoup, à dire vrai, parce que il savait que je savais qu'il n'aimait pas qu'on aborde ce sujet. Cela étant, moi j'ai eu, chaque fois que nous allions, par exemple, déjeuner au restaurant, tous les deux, ou chaque fois que nous allions au palais de justice, je voyais les gens qui, immédiatement, reconnaissaient le baron en pain, parce qu'il était vraiment, il avait une gueule, mais immédiatement, il regardait son petit doigt. Et ça, c'était quelque chose qui lui déplaisait souverainement, et très franchement, à moi aussi.
Est-ce qu'aujourd'hui, vous parliez de sa famille, ça a été compliqué à la sortie, est-ce qu'aujourd'hui, sa mémoire, si je puis dire, est réhabilitée au baron en pain ?
Oui, moi j'aurais tendance à dire que oui. Il a changé totalement. Il a épousé une autre femme, Jacqueline. Il a vécu à Bouffémont dans des conditions bien différentes, beaucoup plus modestes, mais ses enfants sont restés attachés à lui. Il a écrit ce livre, il a écrit un livre qui est d'ailleurs un beau livre, je l'ai relu ces jours derniers, très bien écrit, et puis il a fait d'autres choses, mais c'était plus le grand patron du groupe Empain-Schneidre.
Merci infiniment, maître Jean-Yves Dupeu, d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime pour parler si bien du baron en pain. Merci à toutes et tous pour votre fidélité. Merci à l'équipe de l'émission, Justine Vigneault, Amandine Lemaire et Sébastien Rocheron à la réalisation. Demain, un autre grand rapt d'un tout autre genre, San Antonio, Frédéric Dard, l'enlèvement de sa fille Joséphine. À demain, excellente soirée sur RTL.